des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, un thème fort, un thème phare en littérature, le conflit, pas le conflit amoureux à l'œuvre chez Racine, chez Shakespeare ou chez Corneille, et formulé en termes certes martiaux et non exempts de morts violentes, hein, que je sens de rudes combats contre mon propre honneur. Mon amour s'intéresse, vous avez reconnu le Cid de Corneille. Non, pas le conflit amoureux, mais bel et bien le conflit armé, qui est aussi un conflit de mots quand il se traduit en roman. Et c'est le cas avec nos trois invités, la Libanaise Yam Yared, l'encyclopédiste des guerres Jean-Yves Joanet et le romancier urbain, très urbain, Charles Robinson, trois écrivains nourris par les conflits et dont les livres nous emmèneront d'un champ de bataille à une bibliothèque de guerre, d'une cité qui craque à l'Orient déchiré. Bonjour Yam Yared.
Bonjour.
Vous êtes en face de moi. Vous publiez Tout est halluciné chez Fayard, un titre qui rappelle Tout est illuminé de Jonathan Safran Foer. Illumination chez vous aussi, mais qui sont le fait souvent des balles traçantes du conflit libanais. Nous suivons dans ce livre Justine, 5 ans, qui se réveille, c'est comme une deuxième naissance après un coma dans un hôpital du Caire. Elle doit tout réapprendre, reconstruire sa mémoire face à un père qui persiste à enfermer sa fille dans la nostalgie de Byzance, hein, la grande Byzance. C'est une traversée d'un Orient déchiré qui va nous mener en Syrie, au Liban, et qui nous parle de ses illusions perdues. Elle traverse le livre, elle jalonne cet Orient. Est-ce que vous diriez, Yam Yared, que l'écriture de ce roman, c'est autant l'histoire des conséquences intimes, hein, d'un conflit politique que l'histoire d'un conflit d'identité au pluriel?
Mais c'est vrai qu'on parle du conflit armé, mais c'est aussi un conflit personnel. C'est sûr que cette Justine à qui on refuse l'accès à sa mémoire, à qui on veut imposer un mythe, un coma historique, puisque le père est totalement omnibulé par Byzance et la chute de l'Empire, il est dans un déni de réalité, dans un déni de présent. Et donc comment recontextualiser son identité dans la réalité? Où est cette réalité? Est-elle factuelle? Est-elle racontée? Est-elle hallucinée? Est-elle, vous savez, il y a tellement de versions d'une même réalité que ma narratrice se perd et parfois nous-mêmes nous avons du mal à nous y retrouver.
Voilà, et on y plongera davantage évidemment. Bonjour Jean-Yves Joanet.
Bonjour.
Vous êtes à la droite de Yam Yared sur ce plateau. Ça fait des années que vous poursuivez un travail littéraire sur la guerre. Travail littéraire, travail artistique aussi, puisque depuis 2008, hein, si je ne m'abuse, vous poursuivez un cycle de performances, de lectures, de conférences intitulé L'encyclopédie des guerres. C'est au Centre Pompidou, c'est ailleurs aussi.
C'est aussi à la Comédie de Reims, un théâtre de Reims.
Et vous en êtes à la lettre...
Alors à Reims, je suis à la lettre F, je crois, ouais. Et à la lettre L pour Paris.
Donc encyclopédie, voilà, lettre par lettre, une notion liée à la guerre.
Pas nécessairement liée à la guerre, ce sont des mots sur lesquels je trébuche dans des livres dits de guerre, mais ça peut être l'entrée maman comme l'entrée fanion.
Alors vous publiez la bibliothèque de Hans Reiter chez Grasset. Le narrateur part à Rügen en Allemagne acquérir la bibliothèque d'un collectionneur, ce fameux Hans Reiter, qui porte essentiellement sur la littérature de guerre. Pendant la vente, Manu Militari, ce jeune homme, remporte plus de la moitié des titres et de retour en France, plongé non pas dans un état d'urgence, mais bien un état de guerre, on y reviendra. Une guerre dont les parties ne sont pas nommées, mais en tout cas un état de guerre un peu qui transpire comme ça à travers vos pages, hein, c'est ça, mais c'est surtout pas nommé.
Oui, c'est un état climatologique, c'est une météo de guerre, mais qui est le temps que nous vivons. Les choses deviennent très confuses.
Alors, il se rend compte, hein, votre narrateur, que certaines pages des livres de cette bibliothèque, de cette partie de bibliothèque qu'il a acquise, sont arrachées. Forment-elles un livre? Et surtout, chaque livre sur la guerre et les conflits humains sont-ils un récit troué? Voici quelques-unes des questions que pose votre bibliothèque. Alors, oui, je me suis posé une question sur ces pages arrachées, qui d'ailleurs faisaient écho au récit troué de Yam Yared. Quel est le sens, en fait, de cet arrachage de pages sur la guerre?
On comprend que le narrateur, au final, enquête sur une hypothèse liée à l'origine des conflits. est vraiment, je le dis tout de suite, une hypothèse intenable, idéologiquement, éthiquement, à savoir que les guerres naîtraient de blagues, que la guerre serait à chaque fois une blague qui tourne mal, on est bien d'accord sur ce principe, et que l'un des points de départ qui motive la collection de ce monsieur, qui s'appelle Hans Reiter, dont d'ailleurs je le signale, j'emprunte le nom à un personnage d'un roman de Roberto Bolaño, et ça commence en fait à une date très précise qui est le 28 avril 1939, qui est la date d'un discours de Hitler, non pas au Reichstag qui a été incendié 3 ans auparavant, mais à l'Opéra Kroll, où il répond à une missive de Roosevelt, qui le met en garde contre les agressions possibles du Reich contre des nations européens. Et en fait, Hitler répond par une blague. C'est quelque chose d'absolument incroyable. La vidéo existe, le document filmé existe. La véritable déclaration de guerre de l'Allemagne au reste du monde prend la forme d'une blague. Et donc, voilà, c'est une enquête...
C'est l'hypothèse, hein, c'est votre hypothèse.
Oui, on est bien d'accord. Mais tout cela n'est qu'un roman. Mais pour le coup, j'ai fini par me prendre au jeu moi-même et à trouver de drôles de recoupements avec la réalité.
Et enfin, bonjour Charles Robinson.
Bonjour.
Vous êtes à ma droite, vous nous emmenez cité des Pigeonniers, 322 appartements, 1200 habitants et autant d'histoires, presque un quartier de bar HLM que le bailleur social a décidé de détruire. C'est une grande fresque, le titre est « Fabrication de la guerre civile hein, », ça paraît au seuil, une grande fresque qui où l'on suit une myriade de personnages, Begum comme les favorites des sultans ou GTA comme le nom de jeu vidéo ultra-violent, tout un petit monde que vous observez à la loupe, dont vous faites le lieu de cette fabrication de la guerre civile, hein, puisque c'est le titre de votre roman. Ce texte s'inscrit dans la continuation d'un autre texte, publié en 2011, qui s'intitulait « Dans les cités ». Les cités seraient-elles, Charles Robinson, ce que nous disent le rap, ce que nous disent le cinéma, ce que nous disent aussi les médias, et ce que nous dit, grâce à vous aussi, la littérature, le lieu du conflit par excellence? Ou c'est un topos, un lieu commun?
Bah de toute façon, toutes les sociétés sont des lieux de conflit. Donc ça, je ne crois pas qu'il y ait de particularité aux cités. Une société est forcément le lieu des conflits, puisqu'il y a des conflits d'intérêts, de valeurs. Et d'une certaine manière, le conflit n'est pas un problème. Le conflit est là, inévitable à partir du moment où il y a des humains qui se développent.
Mais vous avez choisi une cité, hein.
En fait, il n'y a pas d'obligation à ce que le conflit dégénère en guerre et à ce que le conflit génère des ennemis. Ce que je crois on peut observer avec cette histoire des cités, que je ne prends pas comme un lieu en dehors du monde, mais presque comme une espèce d'avant-garde. C'est d'ailleurs quelque chose que dit un des personnages. On est le laboratoire de quelque chose qui est en train de se développer et vous allez être tous pris là-dedans. Donc les cités ne sont pas à l'écart, en fait. C'est un point d'aboutissement.
Un avant-poste, quoi.
Ouais, c'est, je crois. Et une des choses qui se produit et qui a donc à voir avec la guerre civile, c'est le fait que les conflits ne sont plus, trouvent plus de mode de régulation, que les conflits dégénèrent en hostilité et génèrent des ennemis, donc de la guerre et de la violence.
Merci Charles Robinson, merci à tous les trois de participer à cette émission. Quand on regarde l'histoire littéraire, on s'aperçoit que depuis l'Iliade ou la chanson de Roland, la littérature semble être liée d'emblée à l'expérience de la guerre et semble avoir le rôle de dire la guerre. Qu'est-ce qui, selon vous, Jean-Yves Joinet, explique ce lien?
Moi, j'ai toujours ces hypothèses qui ne tiennent pas debout, mais bon, elles sont séduisantes. Enfin, moi, elles me séduisent, à savoir que... Laissons faire. En plus, cette hypothèse, elle est relayée entre-temps par quelqu'un comme Michelet, à savoir que, parlant de César, écrivant La guerre des Gaules, commentaire sur la guerre des Gaules, César n'aurait fait la guerre en Gaule que pour écrire un livre qui s'appelle Commentaire sur la guerre des Gaules, et c'est tout à fait plausible. Dans le semble, à ce moment-là de l'Empire, tout devait le mener à conduire une guerre, porter le feu, ou les armes, comme on disait, en Dacie, sur les bords du Danube. Là, il y avait des soucis. En Gaule, pas du tout. Mais en Gaule, il y avait une couleur locale, il y avait la valeur des combattants, il y avait la religion des druides, il y avait des paysages qui offraient des conditions de l'écriture d'un... En fait, il est venu faire une résidence d'écriture en Gaule. Et Michelet
l'hypothèse est séduisante.
Ouais, Michelet le décrit comme ça. Il dit, faut imaginer César porté par ses légionnaires entre deux crises d'épilepsie dans les grandes forêts gauloises, à la recherche, écrit-il, d'un matériau littéraire à la hauteur de son génie. Littéraire. Voilà. Moi, c'est des petites pistes qui finissent par m'exciter pas mal.
Cette hypothèse vous semble-t-elle aussi séduisante, Yami Red?
Je la trouve séduisante. Après, je pense que finalement, aller en Gaule, parce qu'il y a des valeurs de combattants et des valeurs culturelles.
C'est et aussi, des paysages. Hein,
et des paysages, mais il y a aussi, il doit y avoir quelque part, en deçà de tout ça, une volonté quand même de puissance et de domination quand même, je pense. Et c'est moins séduisant, du coup.
Mais comment expliquer ça, que quand on regarde justement l'histoire littéraire, alors vous venez de nous donner une explication, Jean-Yves Joinet, mais cette idée que, au fond, les premiers textes, en fait, premiers textes de la littérature, de l'humanité, il y a les grands mythes d'ailleurs sont aussi des batailles, hein, si on regarde les dieux contre les titans, par exemple dans la Théogonie d'Hésiode, que la littérature est intrinsèquement liée à l'expérience du conflit.
Oui,
c'est ça, la question.
Exactement. Bon, par rapport au conflit au Moyen-Orient, en tout cas au Liban, par exemple, nous avons aujourd'hui un vrai problème, et c'est un peu le rapport pour mon livre allégorique entre le père qui est dans un déni de réalité et le Liban lui-même qui vit un déni de réalité politique, parce que nous vivons dans un non-lieu mémoriel. La fin de la guerre a été déclarée par un amnistie du jour au lendemain. Tous les dirigeants, les seigneurs de la guerre se sont assis à une même table avec du sang sur la main, se sont salués et voilà, et c'était fini. On a balayé la guerre et du jour au lendemain on a dit aux gens, tout ce que vous avez vécu c'est presque une hallucination puisqu'on n'en parle plus, c'est interdit d'en parler. Et je pense qu'il y a un vrai problème à cet endroit, qu'il n'y ait par exemple pas de manuel d'histoire avec une histoire consensuelle, et ça a produit justement une littérature foisonnante à cet endroit. Toute la littérature aujourd'hui libanaise, en tout cas, la plupart, tourne autour de la question du conflit du Moyen-Orient ou du Liban.
L'interdiction d'une parole officielle, d'une parole d'enseignement sur la guerre, a produit une littérature sur le conflit.
Absolument.
Charles Robinson, vous parliez d'avant-poste, de cette cité comme avant-poste d'une situation qui allait advenir, d'une situation de conflit. Est-ce que vous pensez que la littérature est le lieu, le reflet des conflits de la réalité, ou au contraire le lieu où l'on peut travailler ces conflits pour mieux peut-être les désamorcer? Je pensais à Griffith, ce grand cinéaste de Naissance d'une nation ou d'intolérance, qui disait en 2024, le cinéma aura contribué à éliminer de la surface du monde civilisé tout conflit armé. Au fond, le spectacle désamorce le réel.
Possible. Alors pour le coup, puisqu'on en littérature, en fait, il n'y a jamais de vérité, il n'y a que des hypothèses, pour rejoindre ce que disait Jean-Yves Joinet. Moi, je serais tenté par une autre hypothèse que celle-là, qui est de dire qu'au contraire, la littérature est l'espace pour ramener du conflit. En fait, les sociétés ont tendance à se figer, à se scléroser. Il y a un processus de capture à l'œuvre dans les sociétés. La littérature, et si on pense aux cités, le langage, c'est au contraire, à un moment où il y a cette sorte de figement et cette capture réalisée dans la société, finalement, le fait de la faire exploser, puisque ce figement produit une société qui est malheureuse. L'exercice de la littérature, c'est remettre ça en fusion. C'est là où il y a quelque chose qui gèle, c'est
produire
remettre
du
feu.
Produire du conflit.
D'une certaine manière, ouais, c'est remettre du conflit comme processus de transformation.
On va continuer à explorer avec vous donc ces liens, ces liaisons dangereuses mais stimulantes entre la littérature et le conflit. On va commencer avec vous, Yam Yared. Vous publiez Tout est halluciné, c'est un roman chez Fayard. Vous avez choisi comme musique Oum Kalsoum, et alors je vous laisse dire le titre.
Ana Sha'bou.
Voilà, qui veut dire
je suis le peuple.
On écoute.
أبي عميق عريق يقول أنا الشعب والمعجزة أنا الشعب لا شيء قد أعجز صاح من الشعب صوت طليق قوي أبي عميق عريق وصاح من الشعب صوت طليق قوي أبي عميق عريق يقول أنا الشعب والمعجزة أنا الشعب لا شيء قد أعجز كل الذي قاله أنجز.
Applaudissements pour Oum Kalsoum, je suis le peuple, on le redit Yam Yared en arabe.
Ana Sha'bou.
Voilà, c'est votre choix musical Yam Yared. Vous publiez Tout est halluciné chez Fayard, votre nouveau roman. Pourquoi ce choix du monument Oum Kalsoum?
Parce que quand les printemps arabes ont commencé, moi je me suis remise à écouter cette chanson en boucle, parce que je trouve qu'elle était quand même porteuse de tous les événements qu'a vécu l'Égypte. Bon, il y a Ana Sha'bou la ya'rifu al-mustahil, le peuple ne connaît pas l'impossible finalement pour arriver à ses revendications. Bon, c'est pas et en même temps, qu'est-ce que l'impossible finalement? C'est aussi la mort, c'est aussi la destruction. Faut-il passer inévitablement par là pour arriver à construire quelque chose qui avance? cette question-là, je crois que je n'ai pas réussi à lui trouver de réponse. C'est un peu le sujet de ce livre.
Donc on suit dans ce roman l'itinéraire de Justine, hein, née à 5 ans dans un hôpital en Égypte, lorsqu'elle sort, renée d'ailleurs, d'un coma, deuxième naissance au sens propre, puisque les souvenirs de la première vie ne sont plus là. Elle se retrouve face à un homme qui lui dit « Je suis ton père ». Et il est mégalomane, il est très très, comment dirait-on, décalé, hein. Il vit dans un, vous parliez de déni de réalité, dans la nostalgie de Byzance, le regret à jamais formulé de la chute de Constantinople. Justine grandit à ses côtés. Et ce qui est curieux, en fait, chez ce père, c'est qu'il lui égrène à longueur de journée des versets des évangiles, tente de lui inculquer aussi cette autre réalité, cette réalité d'à côté, son repli identitaire aussi. Et surtout, il lui interdit de prononcer deux mots, Liban et mère, c'est-à-dire le pays d'où elle vient, le pays de sa famille, et mère,
le corps aussi. D'où elle vient.
Exactement, le corps, l'autre pays d'où elle vient. Donc, elle se tourne, Justine, vers l'écriture, vers la littérature, pour essayer d'extraire des indices qui pourraient l'aider à se libérer aussi de cette empreinte du père. Et elle va se lancer dans une quête qui l'amène jusqu'à un retour au Caire et à la révolution de 2011. On parlait tout à l'heure d'un conflit d'identité avec vous, Yamir Red. Conflit politique, évidemment, puisqu'on rejoint les événements de 2011, la chute de Moubarak. C'est un livre qui est très ancré dans l'histoire. Alors, pourquoi ce titre, Tout est halluciné, caractérisant une perception assez peu réaliste, alors qu'il y a un ancrage dans l'histoire extrêmement présent ?
Alors, pourquoi ce titre ? Parce que cette Justine-là a du mal à se réinventer, à renouer avec une identité qui soit à la fois créatrice et émancipée des tentatives de son père de contrôler finalement le vide dans son cerveau, et donc d'essayer de trouver une Justine qui lui ressemble et qui ressemble au réel. Et elle a une perte de repère justement avec cette réalité, parce que la réalité, elle est racontée aussi par les autres. Et donc, comment est-ce que vous faites finalement votre bilan entre ce qui est, ce qu'on vous dit, ce que... Et en fait, c'est vrai que c'est une longue quête identitaire. Elle va retourner au Liban, bravant la colère du père, puisque le Liban est un mot de bègue que nous ne prononçons jamais.
Et elle va aussi... Pourquoi dites-vous un mot de bègue ? Expliquez, c'est important.
Le père veut lui parler et en même temps se retient. C'est parce qu'il
y a des trous, hein, vraiment. C'est vrai que dans le récit, il y a des trous.
Oui, voilà. Il y a des trous. Déjà, la mère, par exemple, aussi, elle est cette... Trois points de suspension, c'est toujours trois points de suspension à la mer. Donc il y a des vides. Et donc comment est-ce qu'on fait pour les colmater ? Et au propre comme au figuré, on peut parler d'une ville à reconstruire, on peut parler d'une personne à reconstruire. Donc comment est-ce qu'on fait pour sortir du déracinement ? Parce que cette fille est déracinée de son histoire. Et je pense que c'est très dangereux quand on inflige ça à un être ou quand on inflige ça à un peuple. Je prends exemple sur, par exemple, ce qui se passe en Irak quand on détruit des temples millénaires, on déracine les peuples culturellement pour mieux les manipuler. Donc pour moi, ces personnages-là sont un peu allégoriques d'une situation qui est un peu le quotidien.
Oui, c'est-à-dire que, voilà, c'est ça. Vous avez parlé d'allégorie, effectivement, Liban, mère, pays d'où elle vient et le corps d'où elle vient, vous le disiez, et c'est vrai que là, vous faisiez référence, par exemple, à Palmyre ou à d'autres destructions qui montrent que les grands conflits, finalement, se jouent de toute façon sur le plan de la mémoire à chaque fois, que vous incarnez
exactement
dans la mémoire de votre personnage.
Vous savez, la nature a horreur du vide, donc c'est un peu le sujet de ce livre.
Vous parliez de mémoire trouée, Yamir Red, évidemment, moi, ça me fait penser aux pages arrachées dans la bibliothèque d'Anschreiter, que met en scène Jean-Yves Joinet dans son livre. La guerre, c'est forcément... lié à cette idée de trouer une mémoire, comme on troue la peau des êtres, comme on brûle les livres.
Oui, c'est compliqué. Moi, je suis assez mal placé pour parler véritablement de la guerre. Ce qui m'intéresse, c'est la littérature.
La littérature, bien sûr.
La littérature qui naît de certains phénomènes, dont la guerre. Mais c'est cette histoire, par exemple, d'Alexandre. On a dit d'Alexandre qu'il avait été, à l'image de ce que deviendrait Napoléon, peut-être un pacificateur ou quelqu'un qui avait imaginé le conflit comme... possibilité de mettre des gens ensemble. Mais l'espèce humaine est une espèce maladroite. Ça se passe toujours très mal. C'est comme cette blague que l'on comprend mal. Et l'on dit d'Alexandre qu'il a détruit des villes, qu'il a mis sous le joug des populations entières et des contrées, mais qu'il a bâti plus de villes qu'il n'en a abattues. Donc il y a toujours cette chose-là qui est incompréhensible dans ce que produit la guerre, en termes de destruction et en termes de construction.
On va vous écouter, Yamir Red, lire un passage de Tout est halluciné, votre roman chez Fayard. C'est la veille du départ pour Beyrouth.
La veille de mon départ pour Beyrouth, j'avais tendu les bras vers mon père, espérant une embrassade, un traité, quelque chose qui m'aurait permis de prendre l'avion sans remords, tandis que mes bras formaient un V comme un réceptacle, un V à la pointe retournée contre moi. Mon père avait pointé son index dans ma direction comme si toute la littérature du monde convergeait vers moi. De la sorcellerie et rien d'autre, tu m'entends? La littérature est la conséquence du laxisme de la morale christique. C'est à cause d'elle que nous avons été vaincus par nos ennemis. Regarde ce qui reste de nos empires chrétiens d'Orient et d'Occident. Une poignée de croyants noyés dans une horde de convertis au capitalisme athée ou à l'islam. C'est parce que notre foi a tiédi à force de rhétorique que nos détracteurs nous ont persécutés et nous ont convertis. Les meilleurs alliés de l'islam, ma fille, sont les athées et la laïcité. Et ton Occident, là, ce fourre-tout de prosateurs au discours venimeux à l'encontre de la religion, ne voit pas sa fin venir. Il pense qu'aucun ennemi n'est à ses portes. Son plus redoutable adversaire est lui-même. À force de s'acharner contre son identité religieuse, c'est son identité politique qui s'effondrera. C'est moi qui te le dis. Trop de poussière sur nos souliers, de laideur sur nos âmes a étouffé la ferveur des origines. Nous sommes perdus, ma fille, perdus. Depuis la chute de Constantinople, c'est toute la chrétienté qui agonise. Regarde un peu l'état du Vatican, de ses prélats et de ses églises abandonnées. Partout, elles sont vides, sauf au Caire, où la ferveur, au plus près de la foi de Saint-Marc, demeure résilience née de la quintessence des origines. Cernée de toutes parts, par l'islam, cette communauté résiste. Et toi? Toi, tu ne trouves rien de mieux que de te rendre au libre, bref, dans ce pays qui t'obsède, là-bas. La foi des chrétiens se préserve en opposition à celle des autres, ce qui vaut à peine mieux que de la perdre. La foi se nourrira de sa propre source ou ne sera pas. Croire ne suffisant plus, faudrait-il être menacé pour revenir vers ce qui, sans adversité, nous est indifférent? J'en pleure, je prie beaucoup. Pourquoi penses-tu que le Caire me soit si cher? Parce qu'ici, l'heure n'est pas au débat. Ici, il y a l'urgence de bâtir une foi indestructible. Les Coptes seuls ont préservé l'esprit de Byzance. Ils ne désertent pas les lieux sous la menace. Nous resterons ici, ta tante et moi. Tu dis nous comme si nous étions Coptes alors que nous sommes plus un mot, Libanais. Je t'ai dit plus un mot.
Oui, donc là on voit bien hein, ce jeu. Vous parliez de mots, le Liban comme un mot de bègue. Cette impossibilité qu'a le père à prononcer certains mots. Vous avez choisi Oum Kalsoum tout à l'heure, et je suis le peuple, hein, ce grand hymne. Je me suis demandé, puisque vous parlez d'allégorie, s'il n'y avait pas aussi, avec ce père qui a la main mise sur la mémoire de la fille, sur le langage de sa fille, si c'était pas lui aussi, finalement, une sorte d'allégorie de tout ce qu'on appelle les pères des peuples, à savoir les dictateurs qui, maîtrisant le langage, choisissant les mots qu'on a le droit de prononcer et ceux qu'on n'a pas le droit de prononcer, détruisent justement l'identité ou la façonnent autrement.
Exactement, et nous impose une vision biaisée de la nation, de ce à quoi nous avons droit d'avoir accès ou pas. Donc bien sûr, pour moi, c'est une allégorie des pouvoirs qui finalement manipulent les peuples. Et bon, dans son cas à lui, c'est aussi quelqu'un qui est une allégorie du Liban et d'une certaine communauté chrétienne au Liban qui se sent tiraillée entre Orient et Occident, qui ne reconnaît pas nécessairement son arabité, alors que au début du XXe siècle, les bourgeoisies du Moyen-Orient, chrétiennes, musulmanes, n'avait pas la notion de communautarisme telle qu'on la connaît aujourd'hui. Bien au contraire, c'était des Arabes. Et ce changement-là, ce virement-là, je pense qu'il est aussi le fruit d'un long et difficile divorce entre Orient et Occident. C'est-à-dire que cet Orient qui a été quelque part sous le contrôle de l'Empire ottoman, puis récupéré par les Occidentaux, à savoir par les mandats français, britanniques, et l'histoire qu'ils ont connue par la suite avec la montée des gouvernements dictatoriaux, comment finalement on réussit à ne pas être un enfant victime du divorce de ses deux parents tels qu'on les connaît aujourd'hui, qui malheureusement sont en constant conflit, et comment finalement asseoir son identité. C'est ce que Justine essaye de faire. Elle essaye de se libérer finalement de cette dualité là qui n'est pas la sienne, qui est celle de son père, dans laquelle elle ne veut pas rentrer,
par la littérature qui est quand même définie par le père comme la conséquence du laxisme de la morale christique, hein, c'est ça. La rhétorique a détruit la foi, a produit la littérature, mais lui voit ça comme un mal.
Oui, et surtout le grand mal pour lui, c'est la Révolution française qui est venue à bout des monarchies et des prérogatives du clergé dans la sphère politique. Donc pour lui, c'est la catastrophe parce que ça a contribué à affaiblir finalement le pouvoir de la chrétienté, que ce soit en Occident ou en Orient.
Il y a un personnage qui s'appelle Samar, qui est l'ami de Justine. Elle a été élevée dans une bibliothèque, donc ça va vous toucher, Jean-Louis Joinet, par Madame Aya. C'est un personnage qui est particulièrement touchant, qui a une histoire personnelle liée au livre, et curieusement à un auto-da-fé.
Oui, alors justement, c'est quelqu'un qui s'est réveillé à... Aussi, elle vient d'un milieu, son père est concierge, donc elle n'était pas partie pour avoir accès à les littératures, en tout cas telle qu'elle l'a connue, avec l'érudition de cette Madame Aya qui la prend sous son aile. Elle découvre la littérature, elle découvre finalement, elle déploie toute une intelligence avec ça et se trouve un avenir dans ça, même si son milieu la tire vers autre chose. Elle se bat, elle s'engage avec la Révolution, puis évidemment... Et c'est un peu aussi le sujet de ce livre, la révolution qui mange son peuple, finalement.
Et qui mange les livres.
Et qui mange les livres, justement, puisque, à l'arrivée, après une désillusion qu'elle aura à vivre, elle va prendre tous ses livres, elle va monter sur le toit, et elle va brûler les livres, parce qu'en fait, elle brûle l'intelligence, parce qu'elle a découvert une forme d'intelligence plus grande que l'intelligence, qui est l'amour absolu, même pour son violeur. Donc c'est quand même un peu symptomatique.
Alors, chez vous, Yamired, on brûle les livres, chez Jean-Yves Jouet, on arrache les pages mystérieusement d'une bibliothèque consacrée à la guerre ou unifiée en fait sous le signe du conflit et de la guerre. Plusieurs passages correspondent assez bien. Je vais reciter Yami Yared. À un moment, l'un des personnages lui dit « Dis-toi que t'as, trois petits points de suspension, à creuser un trou dans ton cerveau avant de partir. Ne ravive rien sous peine d'être englouti. Il n'y a rien dans les trous. » On pense à d'autres trous, ceux des charniers, ceux des bombardements, et évidemment des trous dans la bibliothèque de Hans Reiter. Vous avez choisi, Jean-Yves Joinet, comme musique, je vous laisse la parole.
Un titre d'un groupe anglais qui s'appelle Gang of Four, et s'appelle, je crois, Paralyzed.
Paralyzed, on écoute.
Blinkered, paralyzed, flat on my back. They say our world is built with endeavor, that every man is for himself. Wealth is for the one that wants it. Paradise, if you can earn it. History is the reason I'm washed up.
Paralyzed, Gang of Four, c'est le choix de Jean-Yves Joinet qui publie chez Grasset la bibliothèque de Hans Reiter. Pourquoi ce choix de 1981
voilà, c'est parce que j'étais jeune, c'était bien. Non, mais on se refait pas, on a l'impression qu'on évolue, qu'on apprend des choses. En tout cas, dans le domaine de la musique, on se rend compte, je sais pas si c'est vrai pour la littérature, faudrait que je me pose la question, mais on a l'impression de s'éloigner, de découvrir d'autres choses, mais on revient toujours aux sonorités, aux ambiances qui sont marquées. Donc, jusqu'à la fin, j'écouterai ce genre de musique. Et puis, par ailleurs, c'est aussi un morceau de Gang of Four qui sert de générique aux conférences à Beaubourg, l'Encyclopédie des Guerres, un autre titre de Gang of Four.
Donc, pas de sens à trouver dans le titre de cette chanson, Paralyzed, qui semblait faire écho à la situation qu'on a dans la bibliothèque de Hans Reiter, de ce territoire occupé par une guerre qui ne dit pas son nom, où on entend le fracas, des corps sont tués, tombent dans la Seine, sans qu'on sache vraiment qui lutte contre qui.
Oui, pour vous dire la vérité, je l'ai relu hier soir, j'étais un peu curieux de savoir ce que ça donnait. Ce qui m'a le plus surpris, c'est justement cet état de guerre que je décris dans un Paris, dans un livre écrit bien avant les attentats. Donc, il y a quelque chose là qui m'a vraiment pris à la gorge, qui m'a stupéfait. J'habite à 50 mètres du Carillon, qui est le café où il y a eu les... Et ce Paris-là qu'on vit, nous les Parisiens, en tout cas ceux du quartier, puisque Charlie Hebdo, c'était à 250 mètres, il y a une espèce d'épicentre là, quelque chose de catastrophique qui est vécu par les parents d'élèves, par... Enfin voilà, c'est... Et j'ai été très troublé de trouver ça dans mon livre. qui est en effet un état de guerre, comme je disais tout à l'heure, un état comme un état de la météo, comme une espèce d'air, quelque chose que l'on respire à son insu, et dont on ne sait ce que c'est, véritablement, à part que c'est de la peur, en effet.
Alors cette bibliothèque, évidemment, il y a ce Paris en état de guerre, un peu larvé, et puis il y a cette bibliothèque de Hans Reiter, donc le narrateur du livre part à Rügen, en Allemagne, acquérir la bibliothèque de ce Hans Reiter, qui est une bibliothèque qui porte essentiellement sur la littérature de guerre. Pendant la vente, il remporte plus de la moitié des titres, manu militari presque, c'est le cas de le dire. Et puis de retour en France, il se rend compte que certaines pages sont arrachées. Et il se rend compte aussi que quelqu'un d'autre voulait cette bibliothèque et qu'évidemment, il a déclenché un conflit avec cette personne qui a un commanditaire, une commanditaire, lui-même agissant pour le compte de quelqu'un. Il y a un mystère à éclaircir, hein, pourquoi ces pages sont arrachées. Et au fond, j'ai l'impression que vous en donnez la clé, Jean-Yves Jouannet, dès l'exergue de votre livre, qui est tiré du Crapouillot, donc ce périodique satirique français, qui était au départ un journal des tranchées, créé en août 1915. Et je crois que le petit crapaud, le crapouillot, désigne d'ailleurs un mortier.
Un mortier de tranchées, oui. Ouais.
Et cette exergue, elle dit quoi? Elle dit que la guerre est une farce absurde. En rire, c'est la contourner. C'est ça le produit de vos recherches? Ça fait des années et des années que vous travaillez sur la guerre, ou du moins cette hypothèse, c'est que la guerre est une farce et qu'on pourrait la désarmer, désamorcer le conflit par un rire qui la tournerait en ridicule.
Alors la citation est d'un auteur que j'aime beaucoup, qui est par ailleurs un très grand illustrateur affichiste, s'appelait Gus Boffa. Mmh.
Qu'attend-on pour faire la guerre?
Voilà, et qui a perdu ses deux jambes, l'usage de ses deux jambes dès 1914, et qui sait de quoi il parle quand il parle de ce rire possible. Il dit en effet, la mobilisation générale aurait dû faire s'esclaffer la nation entière, et ce rire aurait empêché la guerre. Et à un moment donné, il était trop tard pour rire, il y avait des morts dans la maison. Donc il y a cette espèce de moment où en effet, il y a un malentendu, il y a quelque chose, une blague qui n'a pas été comprise et qui entraîne au conflit. C'est plutôt l'inverse, d'une certaine manière. Et ce que je dis de la guerre, mis sérieusement, mis burlesquement, à savoir que la blague pourrait en être la source, résonne encore une fois très étrangement aujourd'hui, parce que cet attentat contre Charlie Hebdo et ses auteurs tenterait à corroborer cette hypothèse absolument absurde, à savoir que parce qu'on ne comprend pas quelque chose, on ne veut pas saisir l'esprit d'une blague, on tue, on passe à cet acte-là. Eh bien, ma foi, ça finit par constituer en bouquet un ensemble de petits végétaux comme ça que j'avais grappillés à droite à gauche dans les littératures du monde et entre autres un passage d'un livre de Borges que j'adore dans Histoire de l'éternité, c'est un passage sur les kenningar. Les kenningar, je fais vite, c'est des formules répétitives et brèves de la littérature islandaise et nordique. Et donc, c'est une espèce d'objet grammatical post-homérique qui fait que ce sont des périphrases qu'on attribue pour désigner le guerrier, la victime, la lance, etc. Et Borges a cette réflexion très étonnante. Il dit, est-ce que ces formules-là, du fait de leur caractère répétitif, ne recèleraient pas l'humour très ancien et oublié de ces conteurs? Ma foi, est-ce qu'on peut pas imaginer qu'on riait en écoutant l'Iliade ou l'Odyssée? Enfin, je ne sais, ça, pour le coup, c'est invérifiable. Qu'est-ce qui faisait rire? Et qu'est-ce qui ne faisait pas rire? Est-ce qu'on ne racontait pas des histoires de guerre pour faire s'esclaffer les... Voilà. Donc il y a
ce passage où Andromaque pleure en riant quand elle
Exactement.
Voit justement son mari casqué qui effraie son fils
Tout
qu'elle tient
fait.
Dans ses bras.
Oui,
elle,
oui,
je
oui.
crois que en grec, c'est l'expression ça, elle pleure en riant ou elle rit en pleurant.
Tout
d'ailleurs,
fait.
C'est assez
un rire particulier.
Ouais.
Voilà.
Alors vous jouez vous-même à la guerre hein, dans ce livre, vous redoublez puisque un conflit est déclenché par cette compétition pour une bibliothèque de guerre. Donc il y a une mise en abîme savante, vous parliez de Borges, il est passé par là, forcément.
Oui, oui, il est très humblement, je peux oser citer mes modèles, en tout cas.
Je voudrais qu'on vous entende jouer à votre tour à la guerre, puisqu'il y a un personnage, donc le rival du narrateur, hein, qui doit donc acheter cette bibliothèque, s'appelle Ernest Kunger, comment vous prononcez-vous?
En fait, c'est Ernst Jünger.
C'est Ernst Jünger, mais comment vous
et
prononcez
moi, je ne sais
Gunger.
Pas, ça se prononce assez mal, en effet.
Gunther. Ernst Jünger, donc l'auteur d'Orage d'acier, à peine déguisé, comme sont à peine déguisés le nom de sa commanditaire, Pintézil et Kleist, qui fait évidemment référence à la pièce de Kleist, dont le titre était Penthésilée, reine des Amazones, donc oui. Figure guerrière. Mmh. Et je voudrais qu'on vous écoute. C'est un dialogue entre votre Ernest Gunger et votre narrateur autour du cheval de Troie.
Si je comprends bien, la guerre vous préoccupe parce que votre père se prenait pour le cheval de Troie. C'est bien ça? Oui, à peu près. En précisant que selon mon père, cela a son importance, le cheval de Troie était une jument. Nightmare, le mot anglais, cauchemar. En anglais, cauchemar se dit jument de la nuit. Une image qui se manifeste dans un autre espace-temps vient vous terroriser au cœur de votre sommeil. Or, quand on raconte l'Iliade, on ne fait jamais l'économie de la chute d'Ilion et du subterfuge qui cause cette chute. On raconte donc l'épisode du cheval, mais le cheval de Troie ne se trouve pas dans l'Iliade. C'est en pénétrant dans l'Odyssée qu'il est donné au cheval d'entrer dans Troie. Ulysse, hôte anonyme d'Alcinos, demande à Laède de chanter les détails de sa ruse de guerre. Suit une vingtaine de vers qui constituent, chez Homère, tout le récit du cheval piégé. Cet objet a été contraint d'entrer dans un récit qui ne le concerne en rien, afin que puisse s'écrire sa légende. Le cheval est traîné dans l'Odyssée, y est abandonné comme un autre piège. Il scelle le destin d'une ville assiégée, tandis qu'il invente un destin à Ulysse. Le stratagème se glisse dans la fable d'Ulysse, qui devait être celle du voyage de retour, de la sérénité, puis de l'oubli, dans une Ithaque en paix. Il y prend le rôle, plutôt que d'une menace, d'une condamnation à l'exercice perpétuel du meurtre. Tu ne reviendras jamais de la guerre. C'est ce que vient signifier la bête dans une fable qui aurait dû être celle de l'après-guerre. Le cheval de Troie, là où il se trouve, n'est pas vu. Surtout, le cheval de Troie n'existe pas dans le temps de l'action des hommes. Il émane, comme un rêve, d'un temps parallèle.
Merci Jean-Yves Joanet pour cet extrait de la bibliothèque de Hans Reiter qui publie chez Grasset. Votre livre est plein d'explications, de décodage, de tentatives de décodage de toute cette littérature de guerre, jeu sur les noms. On parlait d'Ernst Jünger, de Penthésilée, la pièce éponyme de Heinrich von Kleist sur la reine des Amazones. Le père de Ernest Gunger se déguisait en cheval de Troie. Hans Reiter se déguise lui-même dans son appartement vitrine. Il y a un côté très, on parlait de Borges, très huissement aussi, je trouve, dans ce livre, pour cette passion des... Est-ce que la guerre, qui est donc pour vous née d'une blague qu'on ne comprend pas, serait aussi le jeu suprême, ce jeu qui donne aujourd'hui ce livre, Jean-Yves Jeunet?
Oui, est-ce que je peux avouer une chose aussi horrible? Mais oui, il y a du jeu. Alors c'est drôle que vous citiez Huysmans, qui est encore jusqu'à aujourd'hui mon auteur français préféré, dont je n'ai plus aucun livre, justement. Puisque, en fait, depuis 8 ans, j'échange ma bibliothèque personnelle contre des livres de guerre pour nourrir l'encyclopédie des guerres. Et donc, je n'ai plus de Borges ni de Huysmans.
C'est-à-dire que vous remplacez vos propres livres qui n'étaient pas sur la guerre par des... Voilà. Vous constituez une bibliothèque de guerre.
Voilà. Donc, il y a beaucoup d'auteurs importants à mes yeux qui me manquent aujourd'hui, dont... Huysmans.
Vous faites des performances dans la guerre, ces conférences dont vous parliez. Est-ce que c'est aussi une forme de performance, ce livre borgésien, huysmansien?
Non, je serais tenté de dire ce n'est qu'un livre. Ce n'est pas du tout péjoratif, absolument pas. Il ne faut pas l'entendre ainsi. Mais...
Enfin, vous connaissez le mot de Mallarmé, que le monde était fait pour aboutir à un beau livre. Donc un livre, c'est aussi le monde.
Oui, mais ce n'est qu'un livre parmi tant d'autres. Non, il n'y a pas de... L'encyclopédie des guerres est, elle, dans la durée, une espèce de brouillon à l'échelle de ma vie d'un livre qui n'existera jamais. Là, il y a du jeu, il y a de la palinodie, il y a du retour en arrière, il y a du burlesque et de la gravité. Mais non, ce n'est qu'un livre.
Je pensais à ça parce que, évidemment, vous faites référence à Tacite, dont vous citez une phrase que vous décomposez et qui sert comme ça à articuler chacune des parties de votre livre. Vous le citez, la guerre veut que rien ne demeure. Et c'est vrai que dans la phrase de Tacite, cette guerre est décrite comme un fleuve qui inonde les prairies, qui change les paysages. Vous reprenez cette image d'ailleurs à plusieurs reprises dans de très belles pages. Un ruisseau qui chantonnait et puis qui est asséché aujourd'hui et dont le chant est repris par le feuillage des arbres en bordure, c'est très très beau. Est-ce que justement la guerre vous fascine, Jean-Yves Joanet, parce qu'elle représente cette haine de la durée? Et vous venez de répondre presque à la question en disant que vous-même vous changiez les livres, donc vous perturbiez la durée de votre bibliothèque personnelle.
Oui, je précise encore, je suis, me semble-t-il, on se trompe peut-être beaucoup sur soi-même, mais absolument pas fasciné par la guerre. Je ne désire rencontrer ni les militaires, ni j'ai tout fait pour ne pas faire de mon service militaire, ni porter une arme. Donc, ça aurait pu être ça, ma fascination pour cet objet-là ou ce phénomène-là. Non, la question que je me pose, c'est vraiment comment ce type de phénomène produit de la littérature et comment, sans ce phénomène, et vous l'avez dit tout à l'heure, en citant l'Iliade, il n'y aurait pas de littérature.
Ça, vous le formulez comme ça.
Oui.
Sans la guerre, il n'y a pas de littérature.
Me semble-t-il. Cette histoire de conflit dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire c'est qu'est-ce qu'on essaye de bricoler ensemble, avec maladresse ou parfois avec justesse par accident. Oui, ça produit des choses qui sont de l'ordre du drame, de la désespérance et du carnage, malheureusement. Mais parce que c'est aussi un manque d'imagination. Toute l'histoire des guerres tente à prouver que l'homme est amené à tuer sur un champ de bataille par manque d'imagination. Le projet des guerres, c'est l'humiliation de l'ennemi. C'est pas sa mort. Il y a aucun traité de guerre qui prône l'humiliation ou le... Voilà.
Mais il y a les textes, je me tourne vers Yamiared, les textes bibliques qui prônent l'extermination, l'Ancien Testament est plein de ça, quoi, de tuer et les enfants et d'éradiquer totalement des peuples entiers. Mm-hmm. Donc la littérature ne le fait peut-être pas, mais en tout cas...
Non, mais je parlais des traités, des essais, oui. des arts de la guerre, en tout cas.
Est-ce que, Jean-Yves Joinet, il faut donner à l'aspect, je ne vais pas dire thriller, mais en tout cas le mystère, parce qu'il y a une enquête autour de ces pages arrachées dont on aura la solution dans une demeure mystérieuse, un château, et la rencontre avec Penthésilée. Est-ce qu'il faut chercher aussi une allégorie, dont parlait Yamiered, ces pages arrachées étant au fond une image de ces mémoires trouées que propose la guerre, que ces trous qui sont ceux des charniers, qui sont ceux des corps démembrés, des corps troués. Est-ce qu'il faut chercher un parallèle?
Oui, mais alors peut-être en termes de mémoire, avec l'idée peut-être, et ce qui se vérifie génération après génération, que les hommes qui reviennent de la guerre n'en parlent pas. Et qu'en revanche, le prétexte du livre, de la littérature, achemine des récits de génération en génération. Mais en revanche, la parole s'assèche, elle. La parole se tarit. Les anciens combattants sont des gens qui ne disent pas. Donc oui, de ce point de vue-là, il y a un assèchement.
Et ce sont ces pages arrachées.
D'une certaine manière, oui.
Yamiret, je vous voyais acquiescer sur cette idée des combattants.
Je trouve que ce qu'il dit là rejoint un peu, vous aviez utilisé un mot au début, enfin une phrase, vous avez dit la littérature désamorce le réel, mais elle désamorce aussi la mémoire handicapée et la mémoire exclusive qu'on nous transmet aussi de manière biaisée, justement quand on perd la parole ou on ne parle pas, ne pas parler c'est encore dire. Donc comment est-ce qu'on fait pour aller vers une mémoire inclusive de tous les non-dits, inclusifs de l'autre. Et je pense que la littérature est un de ces moyens-là.
On va le voir avec Charles Robinson, parce que là, il y a une tentative pour produire un bloc de mémoire, ou peut-être de mémoire prophétique, avec cette fabrication de la guerre civile. Non, sur cette idée, ne pas dire, c'est encore dire, ce que vous disiez.
Prophétique, je crois pas. En revanche,
vous parliez d'avant-poste, c'est pour ça. Reprenais un peu cette image.
Alors,
ce qui arrive là,
les cités. Dans le livre, il y a clairement cette idée que la cité n'est pas un lieu fermé, mais que c'est un peu ce qui annonce, ce qui nous attend tous. Donc, en fait, la prophétie serait pas sur le fait que quelque chose va se déclencher dans les cités, mais qu'un grand nombre d'entre nous finiront dans quelque chose comme les cités. Mais je rebondirais sur ce que disait Jean-Yves Joinet sur. La guerre a lieu quand cesse l'imagination. En tout cas, c'est quelque chose qui me plaît assez. Les humains essayent d'inventer plein de façons de résoudre leurs conflits, d'inventer des choses, par la politique, par les amitiés, par les mariages, etc. Et la guerre, c'est le moment d'arrêter les choses compliquées pour arriver à un mode de résolution qui est celui le plus simple, qui est celui de « je vais te démolir ». Et dans le rapport aux cités, si on prend un livre comme Fabrication de la guerre civile, où chacun de ces personnages, pour vivre, essaye d'élire sa propre existence, en y ajoutant de l'idéologie, des mythes, donc quelque chose qui a beaucoup à voir avec l'imagination, cette avancée vers la guerre civile, c'est le moment où la machine humaine dit stop à toutes les tentatives d'inventer des choses compliquées, et dit là on va passer à un mode de résolution beaucoup plus simple, on va tout péter.
On va voir si on va tout péter, en tout cas on va prendre d'assaut votre livre, Charles Robinson. On écoute juste avant votre choix musical, vous avez choisi Tricky.
My Palestine Girl.
Voilà, on écoute.
She's got a wiggle when she walk, a giggle when she talk. She's close to God, I dribble like a dog. She's my Palestine girl, my Palestine baby. She drive me crazy in the sun, make me lazy. I take a trip to Gaza, it's love I'm really after. She tells me happy be, we walk happily. Haven't seen a lady, I worry about her safety. I take a trip to Gaza, it's really love I'm after.
She's trapped in by the law. I tell her that I'm in the law. She's trapped in by the law. I tell her that I'm in the law. She's trapped in by the law. I tell her that I'm in the law.
Ouais, Palestine Girl de Tricky, c'est le choix de Charles Robinson qui publie Fabrication de la guerre civile aux éditions du Seuil. Pourquoi ce choix qui va bien à votre livre?
Il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a une question presque, j'ai envie de dire presque épidermique à avoir avec avec l'ambiance, l'énergie, la puissance, la poisse, voilà, qui fait qu'il y a une belle bande son. Voilà, il y a quelque chose qui parle immédiatement. Et puis il y a quelque chose qui, je crois, m'intéresse beaucoup. Par rapport à la littérature où j'ai une passion pour une littérature qui est assez avant-gardiste, littérature assez complexe, il y a quelque chose qui me fascine toujours dans la culture populaire, c'est l'extraordinaire aisance à mélanger ici Babylone, la Palestine, Gaza, les péchés, le sexe, cette espèce de vitesse à travers les thèmes du monde et cette façon de les attraper pour en faire une culture immédiatement perceptible. Ah, je crois que par rapport à la complexité des moyens qu'on peut mettre en place dans un ouvrage littéraire avec une construction extrêmement savante, il y a là dans cette vitesse de la culture populaire quelque chose qui m'éblouit toujours.
Alors c'est vrai, quand on écoute les paroles, « Imprisoned in Babylon », dit-il, Tricky, effectivement ça fait vraiment écho à votre livre, Charles Robinson, qui mêle toutes sortes de langues rageuses, poétiques, SMS, graffiti, slogans, non pas « too big to fail » mais « too big to jail ». Graphiquement aussi, hein, puisque le roman incorpore des caractères différents, des panneaux, des extraits de prospectus. Cette cité des pigeonniers, finalement, et cette nouvelle, alors peut-être pas Babylone, mais je pense même à Babel, quoi, là où le langage se brouille. Tous les langages se mêlent et fusionnent et forment une nouvelle langue.
Oui, en tout cas, il y a une... je ne sais pas si ça forme une nouvelle langue, je serais prudent, mais il y a des usages particuliers de la langue qui sont là aussi faits de vitesse et d'une capacité à aller mélanger un flash d'informations, ce que nous a raconté la voisine, ce qu'on veut dire à la petite amie. Voilà, c'est cet usage très souple de la langue et cette capacité à aller concaténer des éléments et des niveaux, des problématiques qui sont extrêmement différentes. Deleuze parle de ça, il parle du délire. Le délire comme capacité à... On délire jamais sa petite histoire, on délire le monde. Voilà, dans l'usage de la langue.
Qui est une belle définition de la littérature.
Hein, qui est une très belle définition. Et qui, du coup, qui offre un espace merveilleux à la littérature.
Alors, Fabrication de la guerre civile raconte, le mot est mal choisi, mais prend d'assaut, hein, c'est l'expression que j'avais utilisée, cette cité des pigeonniers, donc 322 appartements, 1200 habitants, c'est un quartier de bar HLM que le bailleur social a décidé de détruire. On suit en fait un autre récit qui s'intitulait « Dans les cités » que vous aviez publié en 2011. Et le processus de réhabilitation par la destruction qui se préparait pour cette cité des pigeonniers est désormais très proche de sa phase active. On retrouve des figures familières hein, du précédent texte, une fresque, vraiment, une myriade de personnages dont je parlais, de Begum, GTA qui aime Begum et qui part à sa recherche, Poppy qui attend un enfant, Angela en charge de l'accompagnement de la cité dans sa fin de vie, Bambi, Shumi, Big, énormément de personnages, plusieurs conflits en fait qui se chevauchent, guerre, conflit dans la langue hein, qui est violente, vraiment dru comme en chantier d'ailleurs. Je dis pour les auditeurs qui ne vous voient pas, mais vous faites des gestes avec vos mains pour expliquer cette langue que vous concassez. Guerre de territoire entre les officiels et les officieux, les habitants. Donc plusieurs zones de conflit finalement. Je voudrais qu'on vous entende lire le début, ce sont les premières pages de cette fabrication de la guerre civile.
Qu'est-ce qui se passe? Il a appelé son ex au téléphone, elle habite à 3 bâtiments de là. Il a toujours refusé d'admettre qu'il l'avait tabassée à 2 reprises. Il parle de bagarre, il dit qu'elle a tenté de lui planter une paire de ciseaux dans le foie. Il dit « T'aurais fait quoi à ma place, espèce de connard? T'aurais pas essayé de lui arracher son arme ?» Il a dans la voix le tremblement typique des guerriers du quotidien, ceux qu'on ne met jamais dans les films. « Évidemment, vous prenez toujours le parti des nanas dans votre société à la con. C'est plus des putes, ben non, c'est des victimes, des princesses ultra protégées, alors elles savent, n'importe quoi, tout est permis. » Il l'a appelée pour la voiture, c'est comme ça que ça commence. Elle a dit « Ah bon ? Parce que tu peux payer l'assurance maintenant. L'essence. Il a répondu. Ça te fait chier, hein? Tu croyais que je prendrais le bus toute ma vie? Regarde par ta putain de fenêtre, espèce de truie. Regarde juste dans la rue quand je vais klaxonner. Regarde la caisse que je conduis. Je vais la chercher. Maintenant, demain, je suis devant chez toi et je te mets la hasse jusqu'à ce qu'on t'ouvre ta putain de fenêtre. Ah bon? Elle a ajouté. Je te balancerai un truc. Ce que j'ai de plus gros dans la cuisine. Sur ta bagnole de cake, pour la rayer, je trouverai où tu la gares, j'irai la nuit, je pèterai ta vitre et je chierai sur le siège conducteur. Quand un crime est annoncé dans les médias, la police reçoit aussitôt des revendications. Des gens qui expliquent dans le détail comment ils ont tiré à bout portant dans la tête. Et ça colle plus ou moins aux détails livrés par les journaux. Alors, un policier demande « Vous pouvez me donner un nom et un numéro de téléphone ?» Et à l'autre bout du fil, la voix éclate d'un grand rire gras. Une silhouette s'éloigne de la cabine, convaincue d'être le plus grand criminel depuis le Joker. « Comment va le gosse ?» il a demandé. « Passe-le-moi. »« Il veut pas te parler, » elle a répondu. « Qu'est-ce que tu crois ?» Il a palpé et recompté soigneusement chaque liasse, tout rangé dans la poche intérieure de son veston sans manches. Il a longuement scruté les bosses dans le miroir. Des pifetons, ça donne une vraie silhouette de mec.
Merci Charles Robinson pour cet extrait de La Fabrication de la Guerre Civile. Je voyais Jean-Yves Joinet qui souriait en vous écoutant.
Ah non, mais il faut qu'un théâtre vous programme.
Ouais. C'est le cas, je crois. Hein. Je crois qu'il y a des lectures à la Maison de la Poésie.
Dans ce cas-là, c'est moi qui fais les lectures. Oui. En l'occurrence, on fait une lecture à deux avec une comédienne qui s'appelle Violette Pouzet-Roussel et avec un dispositif son et vidéo.
J'y serai.
on y sera tous.
Non, la question subsidiaire, c'est est-ce que ça s'écrit comme ça, à haute voix?
Non, alors c'est une bonne et grave question. En fait, je suis très attaché à ce passage vers l'oralité parce que je crois que le fait de porter ces textes au public est pour moi un lieu politique. Purement, il y a une dimension artistique qui m'intéresse, la création de forme, mais il y a une occasion politique qui est celle de faire entendre un texte à des gens qui peut-être n'iraient pas lire le livre. J'adore cette littérature, pas la mienne, ce type de littérature. Je sais aussi que sociologiquement, elle touche une petite part du monde. Et ça me pose un problème insurmontable. Enfin, il y a un truc qui est extrêmement violent et douloureux, je pense qu'il nous fait mal à tous, mais en particulier quand on écrit sur les cités, bon, du coup, il y a un truc qui est un peu rude. La lecture publique, c'est l'occasion de créer un lieu commun avec des gens qui peut-être n'iraient pas vers le livre.
Porter le roman, l'oraliser, là, on revient à Homère, hein, finalement, à ses premiers textes de conflit. Quand vous parlez d'une démarche politique, c'est aussi l'idée de provoquer un conflit, mais cette fois-ci un conflit positif. Je pensais à ça parce que votre cité s'appelle la cité des pigeonniers. Et chez moi, les pigeons, je pense pas forcément aux gens qui sont pigeonnés, mais je pense aux pigeons messagers, aux voyageurs, qu'on a d'ailleurs souvent dans la littérature de guerre. Quand vous parlez de dimension politique, est-ce qu'elle inclut aussi cette dimension-là de message délivré sur quelque chose qui va advenir, sur un conflit à venir?
La chose qui m'intéresse est une chose tout à fait différente, c'est de proposer au lecteur de faire une expérience, c'est-à-dire de simplement passer du temps à l'intérieur d'une cité, à l'écoute et à la proximité des êtres qui y vivent. Déjà, chaque lecteur sait, il a déjà son idée sur les cités, rentre dans cette expérience et à l'issue de cette expérience, il en pensera lui aussi ce qu'il veut, ça le regarde. Moi, ça me regarde pas. Et d'une certaine manière, ces pensées ne m'engagent pas. En revanche, la chose qui nous engage temporairement sur le temps, notre temps commun qu'est le temps de littérature, c'est la possibilité de faire l'expérience du monde avec d'autres modalités que celles de notre immédiate présence au monde qui nous éblouit, qui nous écrase d'une certaine manière et qui nous donne peu d'occasion de penser. Je crois qu'il y a dans la littérature une sorte de vocation d'écart, comme une sorte d'apesanteur au réel. C'est pas une sortie, c'est pas une fuite, jamais. On se retrouve en situation d'apesanteur, c'est-à-dire très légèrement flottant au-dessus du réel, pas en dehors, au-dessus. Et donc, je réagis sur le terme de message, on n'est pas dans l'idée du message.
Vous venez de dire, Charles Robinson, il y a une myriade hein, de personnages, hein, vraiment. Et quand on vous écoute le lire, on prend la mesure de tous ces langages qui sont propres à chacun des personnages. Tout s'intrigue. J'ai une question sur cette méthode, en fait. Tous ces personnages-là, vous tenez un index, vous tenez une bible.
Alors, il y a des personnages qui ont une fonction dans le récit, donc qui sont, j'ai envie de dire, presque préalables au travail d'écriture, qui sont là d'entrée de jeu, qui sont presque des points d'entrée pour que du récit naisse. Il y a aussi beaucoup de personnages qui naissent dans la matière qui se développe.
Il y a une enquête ou pas au départ?
Il y a une expérience personnelle, parce que je connaissais certaines cités, j'en fréquentais certaines, donc il y a tout ça nourri. Il y a aussi la volonté de, pour parler du réel, et d'un réel qui est extrêmement médiatisé, par leur portage, par les journaux télé, de m'appuyer énormément sur l'imagination pour ne pas retomber sur des clichés et sur des figures déjà connues. Là aussi, si je prononce le mot cité, on a tous immédiatement 5-6 images qui nous viennent en tête, qui sont des images extrêmement structurantes, qui vont être nos outils pour penser la cité. Si je veux pouvoir proposer une expérience différente, j'ai besoin de faire table rase de ces images préalables et d'en proposer une nouvelle image. Mmh. Donc de m'appuyer sur une très forte imagination, plus que sur un travail de documentation.
Cette situation d'énonciation en apesanteur. Alors justement, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui, dans la littérature contemporaine, on se terminera là-dessus, on a parlé de conflits, on a parlé de guerre, on peut penser à énormément d'écrivains comme Hemingway, comme Camus, comme Sartre, hein, sur la guerre aussi politique. Charles Robinson vient de dire que lui, il y avait un acte politique dans le fait de porter ce livre et de le dire pour qu'il rencontre un public qui n'était pas destiné forcément à lire ses livres, mais qui n'avait pas d'engagement politique, de parole vraiment à délivrer sur ces situations-là. Est-ce que vous diriez-vous que aujourd'hui, finalement, cette part de littérature de conflit est derrière nous ?
Je suis écrivain, je suis femme, je suis pas une seule chose, je suis libanaise forcément, donc j'ai du mal à me distancier. Tout en me distanciant, il y a cette phrase de Camus qui dit que l'écrivain n'est pas engagé, il est embarqué. Donc je crois franchement que forcément mon écriture est embarquée parce que moi, en tant qu'individu, je suis traversée par le monde et je tente d'avoir cette distanciation, cette apesanteur par rapport au réel que m'offre la littérature. Alors après, comme disait justement Charles Robinson, je ne cherche pas un message nécessairement du tout. J'essaie juste de donner mon expérience de ce réel-là à travers la littérature.
Jean-Yves Jeunet.
Oui, c'est une question que je trouve, moi, très embarrassante et donc passionnante, dans le sens où moi, j'ai beaucoup travaillé dans un univers qui est celui de l'art contemporain, où on a vu débouler, au tournant des années 90, un art dit engagé, comme un label rendant plus fluide certaines œuvres dans un univers strictement commercial. Je veux dire par là que j'ai une pudeur à parler d'engagement dans le cadre de mon travail d'artiste, entre guillemets. Je pense que l'engagement politique, il est déjà dans le choix pour un jeune homme ou une jeune femme de devenir artiste, plasticien, écrivain, musicien. Ça paraît naïf de le dire comme ça, mais c'est déjà ça l'engagement. Et puis, dernière chose, je me suis toujours étonné du fait que je sente nécessaire de m'arrêter en 1945 pour traiter des guerres, alors qu'on peut me dire, évidemment, la guerre continue aujourd'hui. Mais justement, il y a une entrée qui s'appelle Pierre, par exemple, dans l'Encyclopédie des guerres, qui raconte des hommes en guerre se jetant des pierres. Junger, il y en a, dans l'Iliade, il y en a, on se bat à coups de pierre. Et je ne parlerai jamais, quand je serai arrivé à cette entrée, de l'intifada, ni de la première, ni de la deuxième, ni peut-être de la troisième. Pourquoi ? En fait, j'ai pas vraiment la réponse. Si ce n'est que il y a un citoyen qui s'appelle Jean-Yves Jouannet, qui vote, qui a des idées, etc., mais qui n'intervient pas, il n'est pas invité dans ces espaces-là. Et encore une fois, ça m'embarrasse. J'ai pas d'autre réponse que celle-ci.
Il y a d'autres livres pour essayer de trouver des réponses. Jean-Yves Jouannet, les prochains peut-être. Merci. Le mot de la fin, Charles Robinson.
Toujours sur la même idée. Effectivement, moi, je rejoindrais complètement ce que disait Yann Mired sur, à partir de la citation de Camus sur embarquer plutôt qu'engager. Je pense que dans la chute globale des idéologies, il y a sans doute pour la littérature le fait d'être engagé par la méthode plus que comme vecteur d'un corpus d'idées extrêmement structuré qui serait message ou littérature à thèse. Je pense qu'il y a une façon plutôt dans la méthode de penser, énoncer, produire le monde.
Merci à tous les trois pour cette émission sur le conflit, sur la guerre. Merci, à bientôt et bon vent à vos livres.
Merci à vous.
Merci.
Je rappelle les titres de vos livres. Fabrication de la guerre civile de Charles Robinson, c'est aux éditions du Seuil. Tout est halluciné de Yam Yared, c'est chez Fayard. Et La bibliothèque de Hans Reiter de Jean-Yves Jouannet chez Grasset. Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, Anne-Laure Chanel et Jean-Louis Deloncle à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an cette émission sur le conflit et la réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr. Pour ma part, je vous retrouve dès lundi pour le temps des libraires à 10h55.